évoque une pièce musicale se pose assez vite la question de son genre. En musique, cette notion de genre, qui est parfois, voire souvent utilisée dans un but commercial, est bien pratique pour donner un aperçu rapide de l'œuvre, pour la situer dans cette immensité que constitue la production musicale de ces 2000 dernières années. Mais dans bien des cas, on est embêté. Notamment quand les artistes que l'on cherche à cataloguer sont des alchimistes adeptes des mélanges en tout genre, ou quand les contours mal définis de leur production nous font hésiter jusqu'à pas d'heure. Aujourd'hui, il sera question de musique traditionnelle, de folk, tels sont les termes qui me viennent spontanément, car vous l'entendrez, on écoutera de vieilles chansons harmonisées à plusieurs voix, accompagnées de guitares, de violons, de vielle à roue et autres mandolines. Mais quand on dit musique traditionnelle ou folk, on n'a pas dit grand-chose, surtout que le groupe dont il s'agit, même s'il part de cette base stylistique, passe pour maître dans l'art d'élargir le propos avec finesse et audace. Heureusement qu'on dispose d'une petite heure ensemble pour développer tout ça en compagnie d'un musicien qui a pratiqué, entre autres, ce style multiforme et aux origines géographiques et historiques très variées. Aujourd'hui, dans des potes et des albums, je reçois Mathias. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Alors Mathias, on est potes, si j'ai compté, depuis 6-7 ans. Alors on a fait on a fait connaissance par l'entremise de nos filles qui pratiquaient la même activité extrascolaire. Et alors on n'est pas des potes au sens très intime du terme, on va dire, mais ce qui est rigolo, c'est que chaque fois qu'on se croise sur un coin de porte ou pour un café rapide, bah ça se transforme en 1h30-2h de discussion, toujours autour de la musique.
C'est ça.
Donc voilà, j'ai assez vite pensé à toi pour ce podcast. Eh bien, je te laisse le soin de nous donner le titre de l'album que tu as choisi.
Alors, il s'agit tout simplement, non, c'est pas forcément simple, mais en tout cas, le titre est assez simple, c'est l'Almana du groupe Malicorne, enregistré en 1976.
Exactement. Alors, pour se mettre dans le bain, je vais faire un petit peu comme d'habitude, on va passer tout de suite un premier extrait. Tu m'as proposé 7 extraits qui vont me servir de fil conducteur, et le premier d'entre eux s'appelle Margot.
Dans mon chemin, j'ai rencontré une pigrièche. Tout au bout d'un bâton planté des clous dedans la tête. Avec par devant des petits enfants. Monsieur le curé derrière qui disait ses prières. Margot, noir comme le charbon, blanche comme le coton. Margot.
Donc c'était le premier extrait qui s'appelle Margot. Alors un premier extrait purement vocal qui est une des signatures stylistiques du groupe. Alors j'ai l'impression pour commencer que Malicorne n'est pas forcément très connu, du moins à cette époque. Je sais pas ce que tu en penses, mais justement pour présenter le groupe, qu'est-ce que tu voudrais en dire aux gens qui ne le connaîtraient pas?
Alors c'est un groupe très important pour ce qu'on appelle le renouveau du folk en France. Alors je ne suis plus tout à fait aussi calé qu'avant sur les dates et tout ça, mais en gros, on va dire à partir de la fin des années 60, les années 70, il y a eu un gros mouvement, revival on dirait en anglais, de musique traditionnelle française, et Malicorne, et notamment son chanteur Gabriel Yacoub, étaient vraiment les fers de lance de ce renouveau, mais il y avait plein d'autres groupes, hein. Là je pense à la Bamboche, mais il y en avait aussi plein, Mélusine, voilà, il y avait plein de groupes comme ça. Alors après, quand je dis fers de lance, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont, comment dire, très très proches du côté très traditionnel de la musique, qui vont peut-être un peu bondir. Parce que justement, une des caractéristiques du groupe, c'est d'avoir essayé d'interpréter les morceaux traditionnels avec les musiques de l'époque, notamment d'amener l'électricité, en fait, ouais. Parce que les musiques traditionnelles, bah, enfin par définition non, pas forcément, mais quelque part c'est acoustique, quoi. C'est oui, des instruments acoustiques. Et là, ils ont apporté, on va l'entendre dans d'autres extraits, mais voilà, des sons électriques, des basses électriques, guitares électriques.
Ils font toujours le ping-pong entre,
voilà,
tradition et modernité.
Ça a fait un peu grincer des dents certaines personnes. Dans la manière de chanter de Gabriel aussi, on a prétendu que c'était pas du tout une façon traditionnelle, mais plutôt une façon anglo-saxonne de chanter.
Oui.
Donc ça a fait un peu grincer des dents, mais d'un autre côté... voilà, il a emporté tout un mouvement de fans derrière. Donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un groupe qui n'est pas très connu, un peu presque on pourrait dire un groupe de niche. Ouais. Mais en fait, à l'époque c'était alors par rapport à l'ensemble de la société, je sais pas, mais c'était quand même un groupe très connu,
très d'accord.
Voilà, dans les gens qui connaissent pas la musique traditionnelle, ils vont quand même facilement connaître le groupe Malicorne.
D'accord. À quel moment tu connais ce groupe ?
Eh ben tout petit.
Qui te le fait découvrir ?
Tout petit, c'est sûrement arrivé à d'autres moments, mais les souvenirs que j'ai, c'est les souvenirs de voyage en voiture et on avait un trafic à l'époque aussi pour aller en vacances avec la famille. Et mes parents, ma mère en particulier, m'étaient souvent notamment cet album-là, l'Almanach de Malicorne. Donc ça a bercé mes heures de voyage en voiture. Donc c'était propice à la méditation.
Oui, c'est vrai. C'est
on regarde par la fenêtre, on voit les paysages passer, on entend la musique. Et puis comme on met la cassette plusieurs fois parce que c'était des cassettes à l'époque. On met la cassette plusieurs fois parce que le voyage dure longtemps. Voilà, je me suis bien imprégné de ces musiques-là.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de, on va l'entendre tout à l'heure, il y a beaucoup de, c'est des structures très répétitives et tout. Donc, comme tu dis, propre à la méditation.
Voilà,
là, tout
exactement.
À fait. Je vois vraiment ce que tu veux dire. Ouais. Et tu avais d'autres artistes que tu écoutais dans la même veine. Alors, je sais que Marie et Gabriel Yacoub, donc les fondateurs de Malicorne, travaillaient avec Dan Arbraz au début.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Ben moi, c'est venu après l'intérêt pour le milieu des musiques traditionnelles dans son ensemble. Il est venu justement après, quand j'ai commencé à faire de la musique, où là, j'ai plutôt commencé, j'ai fait un petit peu de guitare, mais surtout, plus sérieusement, quand j'ai commencé à faire de la batterie. Et puis là, à cet âge-là, j'avais 15 ans, donc je faisais du rock, je faisais toutes sortes de trucs, des musiques improvisées déjà, mais pas de musique traditionnelle. Mais par contre... j'avais pu écouter de Malicorne depuis un moment, et quand j'ai commencé à réécouter, je me suis dit, ah bah oui, c'est quand même une musique qui me prend aux tripes. Et là, en tant que musicien, je me suis plus intéressé à là d'où ça venait. Et,
dans un deuxième temps, alors.
Voilà.
Ouais, ok.
Et donc ça, c'est venu plus tard, et effectivement, je me suis rendu compte, Yacoub a débuté avec Dan Arbraz, tout ça, c'est un domaine, la musique traditionnelle, c'est un domaine large qui existe. Et qui a plein d'artistes en France, notamment. Ouais.
Alors justement, je parlais du genre musical dans l'introduction. Comment on va le cerner, ce genre musical ? Alors, en termes d'instrumentation, déjà, je parlais de guitare, violon, vielle, mandoline.
Ouais, alors...
mais là... ça, c'est peut-être un peu cliché de ma part.
Non, pas forcément, c'est juste... moi, j'ai une approche assez... plus de passionnés par rapport à cette musique, donc je sais que il y a des gens qui sont très très qui connaissent très très bien ces musiques là et je me suis déjà fait taper sur les doigts parce que je disais des bêtises.
Ouais, mais on est entre nous là.
Bon, voilà, après je vais dire ce que moi je ressens et
exactement.
Ce que je connais de cette musique là.
Ouais.
Donc déjà, on pourrait s'attarder sur le terme musique traditionnelle qui pourrait avoir un côté péjoratif chez certaines personnes. Ouais, c'est de la musique trad, c'est des gens en sabots qui savent pas faire de musique et qui dansent dans la boue et tout ça. Évidemment, c'est pas ça. Et il y a aussi le côté, quand on entend traditionnel, on entend figé, peut-être.
Oui,
aussi.
Ouais, tout à fait, ouais.
Alors que
Malicorne,
justement, Malicorne, mais pas que Malicorne, en fait.
Ah oui.
Toute l'histoire de la musique traditionnelle, c'est le principe, c'est que c'est une musique de tradition orale.
Ouais.
D'accord. En fait, je pense que c'est ça qui définit, à mon sens, ce qui définit pas mal la musique traditionnelle, c'est que c'est une musique de tradition orale et une musique populaire. Donc qui effectivement était joué et chanté et dansé par des paysans. C'était l'occasion. On avait les bals populaires dans les je sais plus, peut-être 17e, 16e, 18e siècle, où les gens effectivement dans le Massif Central dansaient la bourrée. Et c'était pas des gens de cour, quoi.
Ouais, d'accord.
C'était des gens, même si certains, alors j'ai l'impression, ça y est, je vais partir dans tous les sens.
Allons-y.
Tu parlais de vielle à roue tout à l'heure.
Ouais.
Donc la vielle à roue, c'est un instrument qui est né à peu près, à peu près à l'an 1000, je crois, qui a été pendant longtemps l'instrument des mendiants, mais qui a eu aussi une période musique de cour. Donc c'était beaucoup de femmes jouaient de la vielle à roue, je crois que c'était pas mal au XVIIIe siècle. Voilà, donc cet instrument a aussi une part, noble, enfin vraiment au sens sociétal.
Ouais, sociétal, c'est ça, voilà. Ouais, pas au sens musical.
Il y a eu aussi de la vielle baroque. L'instrument a évolué d'ailleurs dans sa fabrication, dans l'organologie, entre la vielle à roue des débuts des années 1000, de l'an 1000 à peu près. Musique baroque, musique traditionnelle. Et dans la musique traditionnelle, c'est la vielle à roue, je ne sais pas si pour les auditeurs, c'est un instrument qui a un corps de luth.
Ok.
Donc bombé. Oui, on aurait pu décrire aussi cet instrument. Donc, on appelle vielle à roue puisque c'est un instrument qui est actionné par une manivelle qui est reliée à une roue en bois qui met en vibration des cordes. Donc, vielle parce que c'est des cordes frottées et à roue parce qu'il y a une roue qu'on met en mouvement. Et au niveau organologique et fonction dans la musique, c'est une fonction qui est proche de la cornemuse.
D'accord, donc avec un bourdon, avec...
Exactement, okay, c'est des musiques à bourdon.
Donc bourdon, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être une espèce de note basse un peu répétée tout le long du morceau.
C'est ça, c'est une note continue.
Une note continue, qui va donner un...
Et une base. Qui, de fait, oriente la musique plutôt de façon modale. Donc, je te disais tout à l'heure qu'on parlera peut-être pas trop technique, on y vient quand même un petit peu.
Ouais, mais c'est intéressant.
Comment expliquer rapidement ce qu'est la musique modale? Nous, dans la culture savante européenne, tout ce qui est issu de la musique classique, par exemple, on va dire, on fonctionne en musique tonale. On a des cadences, c'est-à-dire des phrases musicales, en fait, qui fonctionne en gros, on va dire, si on prend les touches blanches d'un piano, on a la gamme de Do majeur, et la manière dont les notes sont réparties inspire une façon d'entendre la musique avec une logique, pratiquement, oui, enfin toutes les musiques de musique européenne classique, c'est vraiment de la musique tonale. C'est difficile à expliquer.
Pour moi, souvent, j'apprends la musique modale en me disant, en fait, c'est une boîte de Lego et on va prendre certaines pièces de la boîte de Lego. Et donc, la musique modale, on va prendre telle et telle note et pas d'autres. Et donc ça va inspirer une sorte de palette de couleurs. Et puis si on veut changer de mode, on va là où on avait par exemple un fa bécard à un moment, on va prendre un fa dièse, mais en gardant la même base de bourdon, en fait on va recoloriser l'ensemble de la musique. J'ai souvent une espèce de... J'ai toujours beaucoup de mal, comme toi, à expliquer la différence. Mais pour moi, je me fais souvent une représentation de changement de palette de couleurs. Je ne sais pas si ça te parle ou si c'est...
Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs façons d'aborder la musique modale. Par rapport aux musiques traditionnelles, l'idée, c'est sur un même morceau, de ne pas trop changer de couleur, en fait. C'est-à-dire on fonctionne sur un mode... qui est inspiré par une note de basse, donc c'est pour ça le bourdon. On va avoir, si je prends classiquement un do, on va avoir un do en continu, et dessus on pose une échelle de notes qui n'est pas forcément effectivement les touches blanches du piano, la gamme de do majeur. Ça peut être un autre mode, effectivement. Do majeur, c'est un mode.
C'est un mode parmi d'autres.
Mais on va pas forcément en changer. Et en fait, on va créer une ambiance. En fait, la musique modale, elle a tendance à créer une atmosphère horizontale, on dit, dans la musique.
C'est-à-dire avec peu de changements d'accords.
On a l'impression qu'il y a une espèce de tapis sonore qui s'installe, une ambiance, et on est dedans, en fait. On est dedans, alors que dans la musique tonale est plus verticale, on dit. C'est-à-dire qu'il y a des accords qui changent au fur et à mesure du temps qui passe. Et en fait, la musique, on l'écoute. En musique tonale, on l'écoute plus dans le défilé du temps, de gauche à droite. On entend la musique qui défile. Alors que dans la musique modale, on va avoir plus une impression d'immobilité.
Et d'être immergé dans un climat sonore.
C'est ça. Je ne sais pas si c'est
allez,
très clair.
On s'en est sorti. C'est toujours un casse-tête, moi, pour essayer d'expliquer.
Si on veut être un tout petit peu plus technique, souvent, en musique tonale, on a la note qu'on appelle la sensible,
Ouais.
Donc en Do majeur, ça va être le Si.
Ouais.
Et le Si, il est juste un demi-ton en dessous du Do. Donc quand on joue le Si, on a envie d'aller vers le Do parce que la note, elle est toute proche. Et souvent en musique modale, au lieu de la sensible Si, on va avoir un Si bémol qui est un peu plus bas, qui est un peu plus éloigné de la fondamentale.
Et qui va pas aller la chercher.
Voilà. Ouais. Et qui donne moins envie d'aller vers...
Donc ça conclut jamais vraiment.
Voilà, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Alors que en classique, on va avoir des cadences, les fameux 4-5-1. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le côté technique non plus, mais c'est des mouvements d'accords qui donnent envie d'aller dans une certaine direction. Ouais. Ouais, alors que le modal, c'est un jeu de tension et détente avec la fondamentale. On va avoir un Do et systématiquement on va jouer avec des notes qui s'en écartent et qui reviennent, des notes qui sont consonantes, on va avoir des quintes, des tierces majeures ou mineures, et puis on va créer des tensions aussi. Donc c'est un rapport par rapport à une note fixe. C'est un jeu comme ça d'attraction. On joue avec ça. Après, la musique modale, peut-être la plus connue dans l'imaginaire collectif, c'est la musique indienne, par exemple. Voilà. On voit ces bourdons qui s'installent, le chant ou un instrument qui développe. Alors eux, effectivement, ils vont changer de mode parce qu'un mode correspond à un état d'esprit. Et ils vont développer des morceaux. Là, on va avoir un truc plutôt au début, je sais pas moi, un peu esprit de réveil du matin. Et puis après, ça va s'activer un petit peu. Et puis après, ça va redescendre. Mais c'est toujours avec la même note. D'ailleurs, dans les orchestres de musique indienne, il y a plusieurs instruments dont certains, le rôle, c'est uniquement de tenir la basse.
Le bourdon.
Voilà. Il y a tout un système où les étudiants qui apprennent à jouer certains instruments, quand ils jouent avec le maître qui transmet, au début, ils ne peuvent jouer que ces instruments qui font le bourdon, avant d'avoir le droit de faire un instrument qui va proposer d'autres mélodies. Mais voilà, enfin, je pense qu'on a tous un imaginaire de la musique indienne et voilà.
Je pensais aussi à la musique arabe du Maghreb, la musique moyenne-orientale. C'est aussi dans cette logique-là.
Sauf que là,
avec d'autres échelles de notes qui vraiment donnent la couleur du pays d'origine.
Voilà, avec certaines notes que nous on n'a pas l'habitude de d'entendre d'ailleurs.
Même une carte
de ton et tout ça.
Oui, alors il y a ça en plus.
En Iran et en d'autres.
Une partie de la musique celtique aussi.
Tout à fait. Musique celtique.
Qui est assez colorée d'une autre manière. c'était. Alors, c'est des notions que j'aime bien discuter. Et voilà, j'ai encore enrichi ma manière de voir l'aspect modal de la musique. Bon, très bien pour cette première partie. On va passer au deuxième extrait que tu as proposé. Une chanson qui s'appelle Voici la Saint-Jean. Voici la Saint-Jean.
Si la lune est levée, où tous les amants vont à l'assemblée, le mien n'y est pas, j'en suis assuré, mais il y en a, l'on voit, si la lune est
Alors, je suis toujours avec Mathias, chez lui. Merci de m'accueillir chez toi, d'ailleurs. Voilà.
Avec plaisir.
Merci pour le petit café. Voici la Saint-Jean. Alors, précision qui est donnée, que j'ai trouvée sur Internet, c'est cette chanson est une ronde à la base. On a ici une orchestration très simple, une guitare, une basse, quasiment à l'unisson, une petite percu minimale et des voix. Mais on en discutait en l'écoutant, là, il y a une décomposition rythmique qui n'est pas forcément évidente. Il crée des décalages. Alors, je ne sais pas si dans les chansons d'origine traditionnelle, il y avait ce genre de décalage, ou si c'était plus régulier, si c'est Malicorne qui a introduit justement ces petites choses trap.
Ça, c'est super intéressant. Il y a encore plein de choses à dire. Je pourrais commencer déjà à dire que. Dans la musique traditionnelle, enfin pas que dans la musique traditionnelle d'ailleurs, Il y a effectivement rythmiquement des choses qui sont pas, qui fonctionnent pas toujours de manière carrée par quatre, on va dire. Mais c'est ça, souvent dans les musiques populaires, en fait, on rencontre ça. On dit que ça vient des musiques savantes, mais finalement pas tant. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de se fier à la phrase musicale. Et quand on n'a pas forcément de formation musicale savante, on va dire, on est moins enclin à respecter des cadres rigides. Donc
ça paraît moins bizarre parce qu'on sent au feeling.
On chante une phrase et en fonction de la mélodie et des mots qui sont dits, ça va tomber sur 7 ou ça va tomber sur sur 9 et on
s'en fout.
On s'en fout. Quoi. Ça nous pose moins de problèmes. C'est quand on commence en fait à avoir étudié un peu la musique et tout qu'on se dit là j'ai fait un truc qui tourne en 7, je vais rajouter un temps pour que ce soit carré. Ouais. Enfin,
c'est peut-être aussi parce qu'on baigne énormément dans des musiques, comme tu dis, carrées, quoi, du 4 temps, éventuellement aussi. Du 3 temps, quand on fait des foufous. Mais...
Bon, après, il y a pas, les musiques populaires, ils sont. J'ai l'impression que je vais faire plein de digressions, mais les joueurs de blues, par exemple, les joueurs de blues américains, la naissance du blues, chant et guitare. Un blues, traditionnellement, au niveau de la structure, c'est 12 mesures. Bon, il y a des blues en 16 mesures, il y a des blues en autre chose, mais on va dire, la structure du blues, c'est 12 mesures. Or, en fait, ça, c'est une occidentalisation de la chose, parce que les chanteurs de blues, les premiers chanteurs de blues, guitare-chant, ils étaient complètement, ils faisaient comme ils voulaient, quoi. Donc, ils avaient effectivement 3 accords, mais ils les plaçaient un peu comme ils voulaient par rapport au chant, quoi. C'est après les observateurs et éventuellement les musiciens qui se sont dit on va essayer de cadrer un peu tout ça, puis ça a fini par donner 12 mesures. Mais en fait, au départ, le gars, il chante, il s'accompagne, c'est un peu une plainte, on a un mélange de chanter, parler,
ce qui ressemble beaucoup aux musiques traditionnelles dont on parle.
Voilà, justement.
Dans un autre cadre.
Donc il y a ça au départ, il y a le côté un peu flou que à chaque fois on veut mettre un peu en cage, c'est encore une autre digression, mais justement le blues, le principe de la note bleue, nous, notamment par notre culture de piano, on va avoir tendance à dire que une des notes bleues, c'est la tierce mineure sur un accord majeur. Mais en fait, c'est une simplification. C'est-à-dire que la note bleue, c'est pas forcément une tierce mineure, c'est une note qui est entre la tierce mineure et la tierce majeure. Elle est infléchie au lieu d'avoir une tierce majeure, on va la baisser un peu et ça crée un effet. Et nous, pour rationaliser le truc, on a dit que c'était un demi-ton, que c'était une tierce mineure, surtout pour le piano qui lui peut pas tellement faire. Mais effectivement, les guitaristes, les chanteurs, les violonistes, les saxophonistes, eux, ils jouent sur cette inflexion. Et on a la même chose au niveau du rythme ternaire. Où nous on dit que c'est ternaire, que c'est divisé en 3, alors qu'en fait c'est un truc infléchi. Enfin, je pourrais développer, mais là c'est pas. On s'éloigne un peu du sujet. Donc, ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'il y a un rapport entre les musiques populaires et la manière dont on les analyse. Et quand on les analyse, on cherche à les cadrer, mais en fait c'est pas forcément aussi simple que ça. Cependant, il y a quand même un truc hyper important dans les musiques traditionnelles, c'est que la majorité des musiques sont faites pour danser. C'est des musiques de danse. Donc il faut quand même que ce soit carré pour que les danseurs puissent.
Il faut qu'on ressente un tempo.
Tempo. Il faut que le nombre de mesures soit carré, qui corresponde au pas de la danse.
D'accord.
Donc il n'y a pas non plus tant de musique impaire que ça. C'est plus dans les chansons. Par exemple, les chansons qui sont pas à danser. Alors là, effectivement, on va avoir des trucs. Alors là, pour arriver précisément au morceau dont on parle, la nouveauté, c'est que Malicorne, en fait, plus qu'une complexification rythmique, ils apportent une musique, une notion de syncope qu'on n'a pas du tout
dans les musiques. Donc dans l'extrait qu'on vient d'écouter là, exactement.
Tiri, pam, tiri, tiri. C'est que des. On s'appuie pas toujours sur les temps comme. On a l'impression effectivement que si on danse dessus, on va se mélanger.
On va se décaler. Mais en fait, comme tu disais.
Et en fait, cette notion de syncope, ça vient du blues en fait, tout simplement. D'accord. Donc une musique traditionnelle, une musique qui ne vient pas de d'Europe. Et rythmiquement, qui nous change complètement nos façons de percevoir les choses. Et ce qui est intéressant, voilà, dans Malicorne, c'est donc au grand dam de certaines personnes qui ont dit ah, ils prennent du répertoire traditionnel français et ils y mettent de la musique anglo-saxonne dedans, c'est pas bien. Mais bon, bien ou pas bien,
oui, parce qu'ils introduisaient en plus des guitares électriques, basse électrique, voilà.
On peut résumer entre guillemets en disant qu'ils ont apporté la syncope et l'électricité dans l'accompagnement de chants traditionnels, quoi.
Mais après, dans cet extrait, donc il commence avec guitare, basse électrique. Donc c'est vrai qu'au niveau du son, ça fait quelque chose de vraiment singulier.
Il y a un instrument en plus.
Dans la première partie, tu veux dire?
Ouais, dès le début. Riff. D'ailleurs, je vérifie quand même qu'il. Parce que si ça intéresse les auditeurs, il y a un super bouquin aux éditions Le Mot et le Reste. Je peux faire.
Bien sûr.
Écrit par un gars que je ne connaissais pas, mais qui s'appelle Arnaud Choutet, qui a écrit tout un bouquin sur Malicorne. Et donc à la fois sur l'histoire de Malicorne et sur les albums, donc c'est assez intéressant. Et là, je vérifie justement dans ce bouquin sur la partie de l'album L'Almana. Il y a un instrument caractéristique que Gabriel Yacoub utilise en dehors de la vielle à roue. C'est un mandoloncelle. Alors un mandoloncelle.
À vos souhaits.
C'est voilà. c'est un instrument à cordes. Et la famille des instruments à cordes, c'est toujours très complexe, surtout dans les musiques traditionnelles. En gros, un mandoloncelle, c'est une mandoline accordée comme un violoncelle. Donc plus grave, ça se rapproche plus effectivement de la tessiture de la guitare, et aussi c'est très très proche de ce qu'on appelle en musique irlandaise le bouzouki irlandais. Alors, d'accord, le bouzouki est un instrument grec au départ, qui a été récupéré, utilisé par les musiciens irlandais dans les années 60 et qui l'ont transformé.
Ils ont rajouté une note.
Il y en avait trois au début, puis quatre. Alors je sais plus l'originel, ça doit être trois doubles cordes.
Trois doubles cordes, puis quatre doubles cordes en Irlande. Et pas les mêmes cordes à la vide.
Voilà. Alors il y a plusieurs accords possibles.
Ouais, d'accord.
Mais un des accords assez courants notamment, c'est l'accord de la mandoline à l'octave. C'est-à-dire, donc, comme mandoline, comme le violon, en partant de l'accord de grave sol, ré, la, mi, un accord en quinte. Donc, on prend la mandoline, une octave plus bas, sol, ré, la, mi, pareil, et on obtient un bouzouki. D'accord. Alors qu'on peut accorder en accord plus ouvert, sol, ré, la, ré, la, ré, la, ré, il y a plusieurs possibilités. Mais donc, ça donne un timbre, en tout cas, à un instrument plus grave que la mandoline, avec quand même des doubles cordes, mais que quatre. Parce qu'il existe la guitare à 12 cordes, par exemple, où là, il y a 6 doubles cordes, où on a un accompagnement très plein au niveau du son. Là, avec le mandoloncelle et le bouzouki, on a un accompagnement un peu plus léger en gardant ce timbre de double corde. Et si on écoute bien le début de l'album, on l'entend, en fait, ce timbre où il y a à la fois le mandoloncelle et la basse électrique. Et voilà, donc le mandoloncelle.
Le mandoloncelle, je ne connaissais pas.
Okay. Oui, proche du bouzouki, quoi.
Ouais, moi ce que je voyais, c'est parce qu'au début, donc il y a ces sonorités donc un peu électriques, puis après assez vite, on entend du violon et ça doit être de la vielle, je pense, à partir de la moitié du morceau.
Tu vois, je sais même plus.
Moi j'y vois vraiment comme un mot couvert. Malicorne montre leur intention artistique, c'est-à-dire que vraiment associer une partie traditionnelle à des sons modernes de leur époque,
et
vraiment
tout à fait.
Avec un esprit presque rock.
C'est ça.
Ouais.
C'est exactement
et
ça.
Et je trouve que c'est vraiment cette chanson, elle est intéressante pour ça. Ouais. Alors, l'album, donc tu disais, il date de 76. Dans une interview, Gabriel Yacoub disait « Almana se présente comme un concept album déclinant en 12 titres traditionnels les pratiques magiques qui sont en rapport direct avec les 12 mois de l'année. » Alors, personnellement, je ne l'ai pas entendu tout le temps, même assez
moi
rarement.
Non plus.
Toi non plus, d'accord. C'était ma question. Mais effectivement, il y a 12 titres. Alors par moment, oui, ça fait référence à certains mois. Des fois, ça peut parler un peu de sorcellerie.
Oui.
C'est un peu loin, mais c'est.
Bah, il faut.
Il faut un peu creuser les textes pour.
Là, tu vois, pour le coup, j'ai pas. Ça fait partie. Je sais plus si on en parlait hors micro ou dans le micro. En tant que musicien, j'ai analysé pas mal de trucs que j'ai pu écouter ou le voir jouer, et il y a certaines musiques comme Malicorne où je me suis pas trop attardé. Ça fait partie des choses que j'ai reçues vraiment quand j'étais tout petit, et j'aime bien garder ce côté un peu magique, justement, sans trop savoir. Donc je sais que effectivement ils ont placer ces morceaux-là en fonction des 12 mois de l'année. J'ai pas toujours compris le rapport et je l'ai pas tellement cherché.
Et c'est pas donc bien grave.
Il y en a, c'est sûr. Ouais. Des gens peut-être qui nous écoutent le savent. Enfin, je veux dire, c'est pas au hasard. Ils se sont pas simplement dit tiens tel morceau ce sera le mois de janvier, tel morceau ce sera.
Ouais.
Mais j'avoue que moi je pourrais pas les décrire plus que ça. Et il y a un truc sur lequel j'ai envie de rebondir, mais peut-être tu y viens après par rapport à la sorcellerie et au côté magique. C'est une autre caractéristique de Malicorne. C'est-à-dire que les thématiques des chansons qui sont utilisées, c'est quand même très très vocal, hein, Malicorne. Il y a quelques instrumentaux, mais c'est quand même essentiellement des chansons, des chants.
Ouais.
C'est la thématique générale, c'est quand même une thématique de fantastique, de sorcellerie, de drame, de c'est une musique plutôt sombre.
Oui.
Et notamment dans cet album là il y a plein de, enfin on va y venir après,
chansons, l'extrait d'après, ça fait une transition magnifique, l'extrait d'après que on a choisi s'appelle Les Tristes Noces.
Voilà,
on l'écoute tout de suite.
Mettez la plus belle de vos robes, mettez la plus belle de vos robes. La belle n'y a pas manqué, la belle n'y a pas manqué. C'est fait faire toi en robe, c'est fait faire.
On vient d'entendre un extrait des Tristes Noces. Alors c'est une chanson qui fait 7 minutes 45. À l'origine, une chanson à la fois de Franche-Comté du Québec, j'ai vu, donc qui raconte une histoire terrible. Un jeune homme, une jeune femme qui était amant. Par contre, le jeune homme a été contraint de se marier à une autre femme. Le jour de ses noces, il danse avec son amoureuse du début, qui tombe morte d'un coup. Et lui ne le supporte pas et se plante un poignard dans la poitrine.
Voilà.
Voilà, alors... c'est gay. Hein c'est...
Oui, comme on disait tout à l'heure.
On est bien. Hein ouais.
Là, j'ai envie, si je peux, simplement de lire quelques lignes du bouquin là dont je parlais tout à l'heure, Malicorne chez Le Mot et le Reste, par Arnaud Choutet.
Bien sûr.
Qui, là, je relis le passage et je me dis que ça décrit très très bien le morceau, donc il le fait mieux que moi, donc je vais simplement reprendre. La ballade Les Tristes Noces raconte un mariage de convenance qui trouve un épilogue effrayant lorsqu'apparaît la délaissée. Le texte, originaire de Franche-Comté, est remanié et associé à un autre air traditionnel venu de Bretagne et du Poitou, connu sous le nom de « Je suis venu vous inviter » ou de « La délaissée aux trois robes ». L'association des deux produit un morceau à tiroir, digne des fresques du rock progressif. La chanson ne sombre jamais dans la monotonie grâce à un accompagnement au violon qui varie constamment et à un air de danse en guise de pont musical. Pour l'occasion, Hugues de Courson, un membre de
Malicorne,
entre parenthèses, de Malicorne, qui a fait plein d'autres choses aussi à côté et après. Donc Hugues de Courson a commandé un arrangement bartokien à un quatuor à cordes et une bourrée au groupe folk La Bamboche, dont on parlait tout à l'heure. Ces deux ensembles jouent simultanément et fusionnent sur quelques mesures. Donc je trouve, là, il y a plein de trucs qui sont intéressants dans ce qui est dit. On parle de rock progressif.
Ouais, carrément.
C'était l'époque aussi.
Ouais.
Donc on a du rock progressif qui vient s'infiltrer dans la musique traditionnelle. On a cette idée que, on l'a pas abordé tout à l'heure, mais le principe de Malicorne, en fait, plein de personnes dans le milieu traditionnel fonctionnent comme ça, c'est-à-dire... On va prendre un texte d'une chanson, mais qu'on va mettre sur la musique d'une autre chanson.
Ouais, ouais.
Donc on fait des combinaisons comme ça. Oui, on n'a pas précisé non plus musique traditionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'auteur défini. Voilà, c'est des chansons et des musiques qui se créent par la pratique, avec le temps.
Et qui se déforment avec le temps, la géographie, voilà, tout ça.
Ouais. Et qui s'enrichit et tout. Et donc, on est assez libre de prendre... C'est ce que fait Yacoub beaucoup. Voilà, il prend des chansons ou des bouts de paroles avec des musiques d'autres... et on a ça, par exemple, là je fais une toute petite parenthèse, en musique irlandaise dont on parlait tout à l'heure, un même morceau va avoir plusieurs titres,
ah oui.
Et un même titre peut correspondre à plusieurs morceaux. Donc on a cette idée là aussi que voilà, tout se mélange un peu, et c'est lié aussi à la culture orale dont on parlait tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Et au fait aussi que à l'époque, à des époques plus reculées, on était moins fixés sur les problèmes d'auteur, de savoir qui avait fait quoi.
Ouais.
Je parle pas des droits d'auteur qui sont, voilà, qui sont ce qu'ils sont, mais cette notion de c'est moi qui ai écrit, ça, dans les musiques traditionnelles, on l'avait pas tellement. On l'a eu après, alors peut-être je vais me faire taper sur les doigts par des gens qui entendent ça, mais je trouve à mon goût qu'on a eu après pas mal de guerres de clochers. Par exemple, cette chanson, elle vient de chez moi, de telle région.
Oui,
d'autres qui vont dire non, elle vient de ma région. Et d'ailleurs, je le prouve. J'ai retrouvé des traces qui, à l'époque, j'ai envie de dire, on s'en fout.
Ouais, déjà, c'est pas l'esprit. Oui.
Enfin, on s'en fout, sauf si on est attaché aux querelles de clochers, ce qui est pas mon cas en tout cas. Et surtout, un même air peut avoir été créé simultanément à deux endroits différents.
Ah oui.
Et on a ça dans les contes. Donc les contes traditionnels, c'est aussi la culture orale, et c'est très lié à beaucoup de conteurs sont aussi musiciens de musique traditionnelle, et inversement, c'est vraiment le même conte et chanson, comme disait je peux citer Michel Hindenock, un musicien conteur que j'aime beaucoup, qui est de la génération de Yacoub. Lui il disait le chant c'est simplement un autre état d'expression par rapport à la voix parlée, mais en fait c'est la même expression, mais dans une dimension un peu différente,
avec d'autres outils
ou d'autres outils, mais on est dans le même qu'on compte une histoire ou qu'on chante une chanson traditionnelle, on est dans la même intention. C'est très clair dans les contes, il y a plein de contes les mêmes qui sont nés à différents endroits du globe, les mêmes.
Et je me dis finalement c'est bien le signe que finalement tout ce qui va venir du peuple, en fait, on voit que les gens vivent un petit peu les mêmes histoires, ils ont un peu les mêmes histoires d'amour, ils ont la même vie qui est rythmée avec les travaux des champs, la religion, le même genre de souffrance, et au final on retrouve des histoires similaires.
Voilà,
et c'est ce qui est retranscrit, c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs versions. Un truc tout con, la chanson Il était un petit navire, voilà, c'est une chanson de marin, ils sont perdus en mer, ils ont faim, ils en mangent un des leurs. Moi, j'ai entendu plein de chansons différentes qui racontent la même histoire avec mélodies différentes, tout ça. Donc c'est bien que voilà, on est dans le même genre d'aspect.
Tout à fait. Et même des fois dans des cultures différentes, parce que
et
tu parlais
de
religion et tout ça, mais en fait on va trouver. Je sais pas. Alors là, je suis pas du tout expert, mais je pense qu'on se rapproche des recherches sur l'universalité de l'humain. Il y a des cultures différentes, mais on va pouvoir en Sibérie avoir un conte qui va être le même. Qui est né en Franche-Comté,
tout à fait,
justement.
Et
ça je trouve ça génial, et du coup ça met un peu à bas les querelles d'appropriation, c'est moi qui ai créé ça, c'est moi qui ai créé qui sont faut le dire aussi un peu qui existent pas mal dans les musiques traditionnelles, où il y a un côté c'est ça que je voulais dire tout à l'heure par rapport aux musiques trad. Tu parlais de folk, alors c'est un vaste débat, mais on va dire qu'en France, quand on parle de musique folklorique, on s'adresse plutôt à des ensembles qui cherchent à restituer une tradition ou une supposée tradition, mais on va chercher à... On est plus dans l'ordre du musée, on va dire. On va chercher à entretenir quelque chose. J'essaie de le dire sans être péjoratif.
Non, mais c'est une intention.
On va chercher à reproduire une musique et une danse telle qu'elle était à une certaine époque.
D'accord.
Ça, c'est ce qu'on appelle musique et ensemble folklorique en France. Outre-Atlantique, folk, c'est autre chose. Folk, c'est peuple, c'est la musique populaire, c'est ce que nous, on va appeler les musiques trad.
D'accord, OK.
Trad pour traditionnel. Et par exemple, folk song, Il y a toute une un courant qui existe notamment aux États-Unis, c'est les Dylan,
voilà, les protest songs aussi.
Protest song aussi. Le terme, ouais. Mais là, on n'est pas du tout dans le folklorique.
Ouais.
On est dans autre chose. Ouais, on est plus une musique populaire, on va dire. Plus
d'accord.
Folk au sens populaire et nous ici folklorique plus au sens conservation et musique traditionnelle. Même si dans traditionnel on entend tradition, c'est plus l'idée de musique populaire à travers les siècles. Je commence à plus savoir comment exprimer les choses. Surtout, j'arrête pas de me dire que s'il y a des spécialistes qui entendent, ils vont se dire mais non, c'est pas du tout ça.
Bon, je t'enverrai tous les mails de protestation.
Oui, voilà,
c'est pas moi. Ok, on va avancer un petit peu. Le quatrième extrait que tu m'as proposé, c'est une chanson qui s'appelle « Quand je menais mes chevaux boire ».
Ouais.
Quand je menais mes chevaux boire, il est aux manettes. Quand je menais mes chevaux boire, j'entendis le coucou chanter. J'entendis le
Terminons cette première partie maintenant et je vous invite à nous retrouver, Mathias et moi, pour reprendre notre entretien sur l'album Almana de Malicorne. À très bientôt.